Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce libre journal de la Nouvelle Droite. Toujours évidemment sur les ondes de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais deux thèmes principaux néanmoins. Le premier, États-Unis-Israël vers le divorce, point d'interrogation évidemment. Et ensuite, faut-il être de gauche pour combattre le libéralisme? Alors pour parler de ces sujets, mais également d'autres choses d'actualité que nous évoquerons, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui dans le studio de Radio Courtoisie Rodolphe Carr.
Bonjour à tous.
Rodolphe, bonjour. Alors je tiens déjà à vous remercier de m'avoir remplacé au pied levé le mois dernier, d'avoir brillamment pris le micro pour diriger l'émission, car j'ai eu un petit empêchement de dernière minute. Donc merci beaucoup de m'avoir dépanné, d'avoir pu offrir une émission de qualité aux auditeurs.
Je vous en prie, mais le peuple vous réclamait. Alors
j'imagine des tonnes de courriers sont tombés à Radio Courtoisie, j'en suis convaincu. Également dans le studio, en face de moi, Alexandre Nantas, qui est un collaborateur de la revue Élément. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Également toujours dans le studio, Gabriel Pignès, journaliste, chercheur, spécialiste notamment des États-Unis. Bienvenue dans le studio.
Merci, bonjour.
On a déjà eu la chance de vous avoir, mais vous êtes un peu moins souvent présent que les autres invités. Et pour finir, le dernier, mais non le moindre, Nicolas De Groot, qui est professeur de lettres et philosophe.
Bonjour.
Et ben voilà, maintenant que les présentations sont faites, nous allons rentrer doucement dans le vif du sujet. Je profite quand même de ce début d'émission pour vous rappeler que le numéro 220 de la revue Élément, qui est la revue phare de la Nouvelle Droite, est toujours en kiosque. Et je vous invite évidemment à le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Élément pour la civilisation européenne, c'est dans tous les bons kiosques, avec dans ce numéro notamment un dossier central sur la question de la rémigration dont Rodolphe et les invités ont parlé le mois dernier, mais le numéro est toujours disponible en kiosque. Comme nous en sommes à la publicité, je me permets d'annoncer à nos chers auditeurs également en avant-première mondiale la sortie du nouvel hors-série, cette fois-ci le hors-série de la revue Élément, le hors-série numéro 4, qui est consacré aux États-Unis, les États-Unis de l'oncle Sam au phénomène Trump, notre meilleur ennemi. Alors le hors-série de la revue Élément, c'est en fait une plongée dans les archives de la revue Élément, donc 50 ans d'archives, sur un thème précis, cette fois-ci les États-Unis, pour essayer de comprendre, de construire une vision des États-Unis, de leur puissance, mais aussi de leur faiblesse et de leur rapport notamment avec l'Europe. Donc un numéro assez dense, assez exceptionnel, avec notamment des articles d'Alain de Benoît, de Jean Caud, une grande entrevue de Matthew Crawford, des articles de Guillaume Fay, Hervé Juvin et de nombreux autres journalistes et auteurs qui ont participé à l'aventure de la revue Élément. Donc vous pouvez... Alors, le numéro n'est pas encore en kiosque, il sortira normalement à la fin de la semaine, il sera vendredi en kiosque, mais vous pouvez en tout cas, si vous ne pouvez pas attendre vendredi pour vous le procurer, il est par contre disponible sur le site internet de la revue Élément. Le site de la revue Élément, c'est www.revue-element.com. Voilà, donc on va fermer là la page publicitaire. On y reviendra peut-être en fin d'émission, car c'est important de faire vivre ces revues qui sont indépendantes et de qualité. Et nous allons entamer cette émission, si vous le voulez bien, avant de plonger dans les deux sujets que j'ai évoqués, par un petit point d'actualité avec Rodolphe Carr, puisque Rodolphe, vous êtes maintenant, je crois, le spécialiste le plus éminent, le plus reconnu de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a eu une petite actualité Jean-Luc Mélenchon ce week-end, puisque à l'occasion de la fête de la musique, il y avait d'une part une manifestation qui était organisée, j'ai l'impression que c'est toutes les semaines maintenant, contre le racisme et les discriminations, et contre évidemment l'odieuse, infamante et menaçante extrême droite, qui était organisée à l'appel du maire de Saint-Denis. Et cette manifestation s'est conclue par un concert gratuit qui avait été, qui avait été interdit dans un premier temps par la préfecture et la justice administrative a décidé que ce concert pouvait avoir lieu. Donc il a eu lieu dans une chaude ambiance qu'on imagine. Bon, ça c'est anecdotique, mais ça permet de parler pendant quelques instants, si vous le voulez bien, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui maintenant est candidat déclaré à la présidentielle de 2027. Comment vous jugez ce début de campagne? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans son discours par rapport à la période d'avant son annonce? Et voilà, comment vous jugez ce début de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Rodolphe?
Disons qu'il faut le mettre en parallèle, ce concert que vous avez évoqué, avec un autre fait qui est plutôt une stratégie assez intéressante de la part de la France Insoumise, c'est d'avoir sorti ce maillot bleu-blanc-rouge aussi, avec Mélenchon derrière, floqué, un maillot pour singer le maillot de l'équipe de France de football, avec floqué derrière Mélenchon 27. Et moi, pour passer assez régulièrement Place de la République, je peux vous en dire qu'on en voit 2-3 des personnes qui le portent. Et mine de rien, c'est quand même une stratégie assez intéressante, parce que j'en discutais récemment avec François Coq. François Coq qui faisait partie du cercle proche de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il est parti du Parti Socialiste en 2008 et lors de l'aventure, on va dire, du Parti de Gauche, jusqu'à être un des premiers purgés après la campagne de 2017. Il sera purgé au moment des Gilets jaunes, François Coq. Et François Coq m'a expliqué qu'en réalité, la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon oscillait toujours entre deux lignes. Une ligne fédérer le peuple, donc là plus sociale, plus populaire, plus ouverte, plus souverainiste, patriote si vous le voulez, et une autre union de la gauche que Jean-Luc Mélenchon avait hérité notamment de son maître François Mitterrand, où là on va plutôt axer sur les thèmes antiracistes, antifascisme, vraiment des thèmes qui vont, comment dire, coaguler la gauche. Et là vous voyez un petit peu avec ces deux événements, les deux lignes. D'un côté la ligne du drapeau bleu-blanc-rouge, du maillot bleu-blanc-rouge, où là on est plutôt dans une ligne d'ouverture plus populaire, justement, et de côté ce concert lors de la fête de la musique antiraciste, où là on voit justement la volonté d'envoyer des signaux comme ça à la gauche. Et donc on va voir, à mon avis, Jean-Luc Mélenchon osciller sur ces deux stratégies. La première, fédérer le peuple, qui était plutôt une stratégie de 2017, et celle de 2022, qui était plutôt une stratégie plus gauchisante, en tout cas. Donc là, je pense qu'il est en train de jouer un peu sur les deux axes, et on va voir au gré des événements, parce qu'il va y avoir des événements extérieurs ou intérieurs lors de la campagne, enfin jusqu'à la campagne et au moment du vote de 2027, Jean-Luc Mélenchon aussi, à mon avis, sur cette ouverture plus populaire et sociale, et parfois ce renfermement sur son socle plus gauchisant. Parce que ça, c'est un des enjeux aussi de 2027, c'est que Jean-Luc Mélenchon doit apparaître comme le candidat du vote utile pour une partie des écologistes et une partie des communistes dès le premier tour. C'est pour ça qu'en réalité, il faut qu'il envoie des signaux à cet électorat-là, mais il faut qu'il envoie aussi des signaux à un autre électorat, qui est l'électorat abstentionniste, c'est le fameux quatrième bloc théorisé par Manuel Bompard, personne qui lui est très proche. Donc là, on voit qu'il est obligé de jouer un peu avec ses différentes cartes, et ça fait partie de sa stratégie, on va dire, pris au sens large.
Très bien, merci pour ce point. Nous allons maintenant aborder les sujets annoncés en début d'émission. Alors, comme nous allons parler de géopolitique, c'est tout de même l'occasion d'évoquer la disparition d'Yves Lacoste, que nous avons apprise hier, qui était un géographe et un politologue français. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce personnage qui était assez important, en tout cas dans sa discipline?
Alors oui, Yves Lacoste est la personne qui a, on dira, fait renaître la géopolitique de ses cendres en France. Géopolitique était un mot qui a été très mal connoté en France du fait de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était vu comme un concept nazi. Parce qu'effectivement, c'était un concept qui, notamment, s'était épanoui en Allemagne, il avait été conceptualisé en Allemagne. Mais Yves Lacoste était un... Là, c'est bon, merci. Yves Lacoste était intellectuellement paradoxal, c'était un communiste au départ, il a toujours été communiste, et il était proche des milieux anticolonialistes, et c'est la guerre du Vietnam qui a été quelque chose de fondateur pour lui, puisqu'il s'est rendu compte que lors d'une enquête sur les bombardements américains contre les digues du fleuve Rouge, la géographie, ça servait aussi à faire la guerre. Et donc en 1972, il avait publié un article dans Le Monde à ce sujet. Il avait rappeler l'importance de la géographie, des cartes pour la guerre. Et il avait ensuite été le fondateur de ce qu'on peut appeler une école française de géopolitique post-Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Institut français de géopolitique, qui est à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, qui existe toujours. Et il a basé énormément son approche sur la question des représentations. Et c'est en ça qu'il est le plus novateur, parce que dans l'approche d'Yves Lacoste, il y a trois points pour développer une analyse géopolitique. Il y a l'étude des représentations, c'est-à-dire les schémas mentaux des acteurs, et il y a l'étude de l'évolution dans le temps de la situation et de l'évolution dans l'espace. Donc c'est en mixant l'histoire, la géographie, avec une importance des cartes, vraiment très importante des cartes, c'est toujours très développé aujourd'hui à l'Institut français de géopolitique, et des représentations, c'est-à-dire qu'elles soient religieuses, qu'elles soient psychologiques... Donc l'étude des discours des acteurs, l'étude de la culture des acteurs pour les prendre au sérieux, qu'on aboutirait à une analyse géopolitique complète. Et surtout, c'est une méthode qui est féconde car elle s'applique à la fois à l'échelle locale. Donc il a fait, dans les thèses qu'il a encadrées, il a été développé notamment une géopolitique territoriale, par exemple à l'échelle de Saint-Denis, et travaux de Jérémy Robin, bon, qui est un gauchiste, mais qui est beaucoup influencé aussi par Ouria Boutelja, mais qui a été encadré par Yves Lacoste. Et donc Yves Lacoste était un mentor qui a travaillé sur la géopolitique à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, entre les différentes communautés, leurs propres perceptions les unes des autres. Et ça peut aussi être appliqué à des guérillas, les FARC, ou à des relations plus classiques interétatiques. Et donc la géopolitique se distingue là de la science politique. Elle est beaucoup plus basée sur les concepts, puisqu'elle est une branche de la science politique. Les relations internationales, je veux dire, sont une branche de la science politique se base beaucoup plus sur l'histoire, sur des concepts, alors que là, la géopolitique est vraiment très centrée sur les cartes.
D'accord, très bien. Moi, je connaissais assez peu cet auteur, mais j'ai lu notamment un article d'hommage qui lui a été rendu par Tristan Mordrel, justement sur le site de la revue Éléments, et qui mettait en avant, en effet, le fait que c'était certes un homme de gauche, mais qui, chose rare, échappait assez largement au manichéisme et au simplisme dans ses analyses, et qui précisait, par exemple, que son anticolonialisme était évidemment très important, mais que ça ne l'empêchait pas non plus de reconnaître parfois les aspects positifs de la colonisation, et notamment par exemple l'œuvre de Lyautey au Maroc. Donc c'était quelqu'un qui se refusait au manichéisme simpliste qui est monnaie courante aujourd'hui, et rien que ça, c'est une qualité suffisamment rare pour être soulignée. Je rappelle que justement le site internet Éléments a rendu hommage à Yves Lacoste et qu'il y aura plusieurs articles, parce que c'est quelqu'un qui a finalement marqué pas mal de gens, même au sein de la Nouvelle Droite. Donc suivez notre site internet si vous intéressez à cette personnalité récemment disparue et à son œuvre. Il y aura plusieurs articles qui lui seront consacré. Je rappelle en effet que la revue Éléments, c'est une revue papier que vous trouvez en kiosque, mais c'est aussi ce site internet qui est mis à jour quotidiennement et sur lequel vous trouvez de très nombreux articles qui viennent compléter la publication papier. Alors justement, de géopolitique, il va être question, puisque nous allons aborder notre premier grand sujet, États-Unis, Israël, le divorce. Est-ce que les alliés historiques sont en train de se séparer? Est-ce qu'il y a une rupture, ou est-ce qu'il y a en tout cas une défiance qui est en train de se mettre en place entre ces deux pays et ces deux puissances dont les destins et les actions ont très souvent été liés? Alors pourquoi se poser cette question? Ben c'est essentiellement suite à la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Protocole d'accord signé le 17 juin 2026 à Versailles, et qui instaure, sinon la paix, du moins un cessez-le-feu et un cadre pour de futures négociations. Et il se trouve que cet accord a été fait sans la participation et sans l'avis d'Israël et du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui l'a appris assez mal, et donc les relations entre les USA et les Et l'État d'Israël sont aujourd'hui plus que froids, ils sont plus tendus. Est-ce que, Gabriel, vous pensez qu'on peut parler d'une rupture radicale ou simplement d'un éloignement circonstanciel?
Je pense qu'il y a un éloignement progressif et que c'est vraiment un mouvement de fond. Il y a plusieurs éléments à observer. Déjà, l'impact du 7 octobre et de la réaction d'Israël sur la répression à Gaza, sur la guerre à Gaza. On a des statistiques très précises américaines sur l'opinion publique des États-Unis, à la fois pour les deux parties et pas en fonction de l'âge. Et on observe un glissement vers une opinion de plus en plus négative au sujet d'Israël, ce qui est absolument inédit aux États-Unis, parce que c'est un pays qui est largement pro-Israël, et d'ailleurs les chrétiens sont plus pro-Israël que ne le sont les juifs américains, qui sont largement à gauche, et qui votent inversement proportionnellement au taux de sionisme des candidats républicains. Mais si vous regardez, c'est le Pew Research Center qui fait des sondages qui font toujours référence aux États-Unis, qui avait observé cette opinion récemment, en 2025, si je ne me trompe pas, eh bien, les jeunes sont beaucoup plus défavorables à Israël, donc 57% des jeunes républicains, alors que c'était plutôt 24% des républicains de plus de 50 ans qui avaient des vues négatives d'Israël, alors que les jeunes, c'est une majorité désormais. Donc la moyenne des républicains elle est à 41% d'opinion défavorable, tandis que chez les démocrates, alors là c'est ultra défavorable, mais effectivement c'est aussi plus chez les jeunes, avec 84% de entre 18 et 49 ans qui ont des opinions défavorables d'Israël. Et ça, il y a plusieurs causes à cela. Alors déjà, il y a aussi le fait que la jeunesse américaine est beaucoup plus diversifiée sur le plan ethnique et que c'était majoritairement des chrétiens blancs protestants qui étaient pro-Israël, tandis que les jeunes qui viennent notamment d'Amérique latine sont très souvent anti-impérialistes et par rapport à leur propre situation en Amérique latine, et sont aussi par extension anti-guerre au Moyen-Orient et anti-Israël, parce que Israël mènerait une politique impérialiste et sur ses voisins du Moyen-Orient. Donc ils s'identifient à cela, et idéologiquement, voilà, ils ne sont pas tellement dans le moule traditionnel de la politique étrangère américaine. À cela, il faut aussi penser et ajouter le fait que dans les élites républicaines actuelles, il y a de plus en plus, notamment dans les élites dirigeantes, et je pense à J.D. Vance, mais aussi une partie de l'élite républicaine, de plus en plus de catholiques conservateurs. Et ces catholiques sont nettement moins pro-Israël que les chrétiens évangéliques sionistes. Ils peuvent être pro-Israël, mais c'est moins fanatique. Et je vous donne un exemple. J.D. Vance, en tant que vice-président, est allé le 23 octobre 2025 à Jérusalem. Et au lieu de passer par le mur des lamentations, ce qui est un peu le passage rituel pour tout politique américain qui se respecte, il est allé directement au Saint-Sépulcre, à Jérusalem, après avoir rencontré des responsables israéliens, certes, mais il n'est pas allé dans le lieu symbolique juif, il est allé dans le lieu symbolique chrétien pour assister à une messe privée dans l'église du Saint-Sépulcre. Voilà. Et il s'est également recueilli devant la pierre de l'onction, là où le corps du Christ aurait été préparé avant son ensevelissement. Donc c'était un voyage purement chrétien et qui a snobé, et ça a été vraiment commenté. Hein. Ça a été commenté dans la presse. Ça inquiète, évidemment. On voit aussi l'interview de Par Tucker Carlson, qui était plus ou moins associé à la Heritage Foundation, qui est le grand think tank conservateur américain actuel. Et donc Tucker Carlson a interrogé Nick Fuentes, donc un influenceur américain antisémite, suprémaciste, bon, très radical, qui ne cache pas ses opinions. Et donc l'interview a choqué énormément une partie de la droite MAGA qui était pro-Israël, évidemment, et qui a appelé à un désaveu par la Heritage Foundation de ces quelques liens avec Tucker Carlson. Et le président de Heritage, qui n'est pas protestant, qui est catholique, Kevin Roberts, a, lui, au contraire, défendu Tucker Carlson en disant qu'il était libre de faire ce qu'il veut et qu'il ne reconnaissait qu'une seule allégeance, c'est Jésus et l'Amérique. Et en disant que Jésus est roi. Voilà. Christ is King. Bon, donc ça a été mal pris par notamment les néoconservateurs, et on en a vu qui pétaient les plombs sur Twitter en disant il faudrait que je retrouve qui c'était exactement. Bon, peu importe. Mais c'est totalement visible et ils l'assument tous.
Peut-être Ben Shapiro, non? Peut-être.
Alors, il y a Ben Shapiro, ça c'est sûr, mais il y avait un néoconservateur historique dont la mère avait été, Madame Ledger avait été au bureau de la Heritage Foundation, et donc il était furibard que la Heritage virait antisémite selon lui. Voilà, ce qui n'est pas non plus le propos de Kevin Roberts. Il n'a pas manifesté d'antisémitisme, mais en tout cas, il n'a pas manifesté non plus d'allégeance à Israël. Donc, il y a quand même des lignes qui changent progressivement, aussi bien au sein des élites républicaines que de la population américaine.
Voilà. Alors, on voit cette évolution que vous évoquez au sein de l'opinion publique américaine, mais est-ce que Trump y a été sensible parce que si on en croit un certain nombre d'observateurs, c'est quand même Netanyahou qui aurait forcé la main quasiment de Trump pour l'intervention en Iran. Ça veut dire que jusqu'à récemment, le gouvernement de Benjamin Netanyahou semblait quand même avoir une grande influence sur Donald Trump et sur son administration.
Alors effectivement, il y avait un article de New York Times qui était paru, qui détaillait tout ce qui s'était passé au sujet du déclenchement de la guerre. Et effectivement, il rapportait que Netanyahou avait présenté un plan jugé éclaté au sol sur une possibilité de renverser le régime iranien facilement, et que Trump l'aurait accepté contre l'avis de tout son entourage et de tous ses conseillers. Donc effectivement, il y a cette idée qu'elle croit les Américains, et je pense qu'il est vrai que Netanyahou a présenté un plan bidon, de même qu'il avait parlé d'armes de destruction massive en Irak pour servir de prétexte à attaquer l'Irak, même si je crois beaucoup plus aux velléités de destruction massive de l'Iran que l'Irak, ça y a pas de souci. Le nucléaire iranien, il existe. Mais en tout cas, il y avait pas. C'était un plan qui n'était pas fait pour marcher. Or, l'objectif de Trump au départ, c'est quand même de restaurer l'Amérique sur le plan intérieur. C'est quand même de sauver la majorité, la très courte majorité blanche de l'immigration massive et de la pire crise migratoire de l'histoire américaine qui avait eu lieu sur le précédent mandat. Donc c'est de mener des expulsions de masse et donc sur un programme aussi controversé, aussi clivant, de remporter à nouveau la majorité aux élections de mi-mandat, donc qui sont les élections législatives aux États-Unis en novembre. Donc c'est une majorité qui est très courte, donc il lui faut vraiment l'assentiment des Américains, et Netanyahou lui a fait déclencher une guerre inutile qui a coûté aux contribuables américains, qui a coûté à son image et à la confiance que lui faisaient les contribuables américains, tout ça pour avoir finalement renforcé les gardiens de la Révolution. Après, on verra évidemment ce qu'il en est à moyen terme. Le régime peut s'effondrer dans quelques mois, dans 2-3 ans, donc il faut attendre un petit peu pour avoir le bilan définitif. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une catastrophe.
Alors justement, je me permets d'indiquer aux auditeurs de Radio Courtoisie que sur ce sujet, il y a dans le numéro 220 actuellement en kiosque de la revue Éléments une entrevue avec le général Michel Yakovlev, qui évoque notamment cette question-là et qui, sur cette intervention américaine que vous venez d'évoquer, confirme vos propos en disant exactement la chose suivante. Oui, Netanyahou a su trouver les arguments, sachant que Trump est mené par son ego. Cette guerre répondait aux intérêts d'Israël, tels que Netanyahou les conçoit. Le premier ministre israélien partage d'ailleurs ce même « trip » entre guillemets de destruction. Comme il ne sait pas quoi faire, il casse tout. La stratégie israélienne est pourtant vouée à l'échec. Toute la bande de Gaza est détruite, mais le Hamas a survécu. Pourquoi réussirait-il au Liban ou en Iran ce qu'il a raté à Gaza ? C'est en effet une interrogation. Une entrevue très intéressante dans le numéro 220 de la revue Éléments. Alors justement, sur les on va revenir, si vous voulez bien, sur cet accord de paix. Enfin, de paix, cet accord de cessez-le-feu, tout du moins, qui a été présenté par un certain nombre de journalistes et de commentateurs comme une défaite pour Donald Trump et justement une victoire relative, en tout cas, pour le régime islamique iranien. Alors, est-ce que vous partagez cette opinion? Alors, je ne sais pas si Gabriel veut encore répondre, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ce sujet.
Bon, en tout cas, le sentiment, Ronald, il me semble, en Israël, un sondage est sorti indiquant que 90% de la population trouvait que ça ressemblait, en tout cas, à une victoire, on va dire, de l'Iran. Ensuite, il faut aussi mentionner le cas du Liban. On ne peut plus parler de cette guerre sans mentionner le cas du Liban, et notamment de ces fameux proxys, Hezbollah, Yémen, ou encore même le Hamas, en tout cas pour ce qu'il en reste. Et comme Gabriel l'a très bien dit, c'est très important aussi la guerre avec son accompagnement qui est le récit. Et d'ailleurs, je crois qu'une partie de la classe dirigeante israélienne comprend qu'elle a peut-être gagné en tout cas la guerre, par exemple, au Liban en ce moment avec une avancée, notamment dans le sud Liban. Mais par contre, au niveau de la guerre de la communication, là, c'est une défaite en rase campagne. Ils le reconnaissent. Ils avaient beaucoup investi. Je crois que Benjamin Netanyahu parlait de huitième front avec vraiment une stratégie pour essayer de monter une digue contre justement le développement qui a touché une partie du public américain, comme l'a très bien rappelé Gabriel. Mais là, on voit aujourd'hui qu'il y a une volonté, en tout cas il y a vraiment une défaite en race campagne, en tout cas sur le domaine de la communication. Et ensuite on a quand même cette diplomatie, je crois que c'était Régis Le Sommier qui le disait aussi sur les ondes de Radio Courtoisie, lui mentionnait le cas d'une victoire aussi peut-être de la diplomatie. D'un côté on a quand même l'État israélien qui a envie d'aller au bout de cette guerre parce qu'elle pense que c'est ses intérêts, en tout cas vitaux, qui sont en jeu. D'un point de vue israélien, c'est une question qui peut se poser, pourquoi pas. Et de l'autre côté on a la voix de la diplomatie en Suisse actuellement avec Jd Vance, et on voit qu'à chaque fois que justement Israël continue son offensive au sud Liban, l'Iran justement recule et fait valoir, en tout cas dans la balance, la question du Liban. Donc là qu'on voit que l'Iran, par le détroit d'Ormuz bien évidemment, et aussi par le Liban, a plusieurs cartes à jouer pour essayer de faire peser ou en tout cas de contrebalancer dans cet accord de paix avec les États-Unis.
Oui, alors si on se penche un peu sur cet accord, on peut en effet avoir l'impression que le régime iranien ne s'en tire pas trop mal. Alors les principaux points, c'est donc la cessation immédiate des hostilités sur tous les fronts, en tout cas pour une durée de 60 jours, la réouverture du détroit d'Ormuz avec un passage sécurisé et sans frais des navires commerciaux toujours pendant 60 jours, après déminage, oui, c'est plus prudent en effet, la levée du blocus naval américain des ports iraniens, la levée des sanctions contre les exportations de pétrole iranien, levée complète des sanctions, déblocage des avoirs iraniens gelés, sur le programme nucléaire, négociations sur l'enrichissement et les besoins nucléaires civils de l'Iran, et également l'annonce d'un plan de reconstruction d'au moins 300 milliards de dollars. Ça, c'est merveilleux, la guerre capitaliste, on détruit tout, et puis après, on fait du business pour reconstruire. Respect mutuel de la souveraineté, etc., pas d'ingérence. Évidemment, c'est pas définitif, il faudra retraiter tout ça dans 60 jours, mais on peut avoir quand même l'impression que l'Iran s'en sort drôlement bien. Et, à contrario, que l'opposition iranienne, à qui on avait promis monts et merveilles, et grosso modo Trump disait « tenez bon, on arrive », a été totalement abandonné à cette campagne. Gabriel, est-ce que vous partagez cette analyse ?
Ah oui, je la partage totalement. En fait, un problème, c'est qu'il y avait déjà des objectifs de guerre qui étaient très flous entre la question des armes de destruction massive potentielle, donc en tout cas en l'occurrence de l'uranium enrichi qui pourrait servir plus tard à créer des bombes atomiques, la libération du peuple iranien. Donc nous, on nous a envoyé au public des signaux contradictoires, et l'administration américaine elle-même prenait des positions, que ce soit Trump qui parlait ou Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc ce qu'on appelle nous un ministre des Affaires étrangères, parler, et on avait des déclarations, on savait vraiment quels étaient les objectifs de guerre, et donc c'est une défaite stratégique majeure parce qu'ils n'ont pas bien défini ce qu'ils voulaient faire sur le terrain, et on ne sait pas tellement finalement ce qu'ils ont fait à part bombarder à droite à gauche, et à la fin c'est la population iranienne, qui trinque, puisque ça a renforcé les gardiens de la révolution, de même que la guerre en Irak avait renforcé aussi les gardiens de la révolution iranien, puisqu'elle avait permis à l'Iran, dans le vide qui était devenu l'Irak, de s'insérer au sein des chiites irakiens. Donc la politique des États-Unis au Moyen-Orient post-2000 passe son temps en fait à renforcer les gardiens de la révolution et donc à radicaliser le régime. Donc oui, je partage cette analyse. Si on peut revenir juste brièvement sur pourquoi est-ce que l'accord d'Obama de 2015 a capoté. Donc qui prévoyait, qui fonctionnait au départ, c'est aussi parce que le Congrès, qui était républicain, avait voté contre. Ensuite, avait tout fait derrière pour pouvoir le bloquer, parce qu'ils étaient encore très sceptiques sur l'Iran en soi, parce que c'est l'Iran, et pro-Israël, à une époque où il n'y avait pas du tout de soupçons de création d'armes de destruction massive, où il y avait quand même des visites de l'AIEA. Donc en fait, il y a une méfiance mutuelle qui s'est créée entre les deux pays et entre leurs élites. Et les Iraniens ne comprennent pas forcément aussi que l'opinion, le système politique américain est divisé. Donc certes, Obama était de bonne foi, mais le Congrès, il n'est pas d'accord. Donc ça fonctionne comme ça aux États-Unis, c'est polycentrique. Et des élites américaines et occidentales qui ont été rapidement très méfiantes dès qu'il y a eu les premières méfiances israéliennes qui ont empêché l'AIEA d'aller sur tous les sites et de pouvoir inspecter tout comme il faut. Parce qu'il faut aussi, dire que l'Iran a une part de responsabilité évidemment très large dans la dégradation des relations avec l'Occident, ça c'est certain.
Oui, alors du côté de Trump, justement par rapport à cette situation, évidemment, lui de son côté, il parle d'une grande victoire, il ne va pas dire le contraire, puisqu'il obtient ce cessez-le-feu, il met fin à un conflit, en effet, comme vous l'aviez souligné, qui est coûteux pour les États-Unis, et surtout, il y a cette réouverture du détroit d'Ormuz qui est fondamentale pour l'économie mondiale, mais, et qu'on se rassure, hein, Trump maintient la pression sur l'Iran, puisqu'il a déclaré, avec le sens de la mesure qui le caractérise, que il était toujours capable de faire tomber l'enfer sur l'Iran si l'Iran violait le texte d'accord. Donc voilà, la pression est quand même maintenue. Nicolas, vous vouliez faire une intervention.
Oui, je trouve que quand on dit que Trump a raté les négociations, que l'Iran s'en sort pas si mal, etc., comme disent les anglo-saxons, il y a un éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu la guerre. Et donc l'Iran qui a gagné dicte ses conditions. Et par exemple, les 300 milliards que les États-Unis vont devoir verser, c'est les frais de guerre, les frais de restructuration et de reconstruction que tout peuple vaincu doit verser.
C'est pas tout à fait ça, le plan de reconstruction. C'est financé notamment par des partenaires régionaux, oui, avec soutien US. Voilà.
Oui, il y a un emballage. Et je pense que Trump dit qu'il a gagné la guerre et que les Iraniens relativement pragmatiques le laissent dire ce qu'il veut, tant que lui donne ce que eux exigent. En réalité, les Iraniens exigent. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont perdu la guerre? Les États-Unis ont perdu la guerre à cause du blocage du détroit d'Ormuz. Et tout simplement, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'engrais. On a délesté des réserves stratégiques de pétrole et on arrive à l'os. Il n'y en a plus, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il y a l'agriculture qui est en train de s'éclater, puisqu'il n'y a plus d'engrais. Il y a le prix du pétrole qui n'arrête pas d'augmenter, qui génère une crise économique mondiale qui va heurter les États-Unis de plein fouet au moment où ils ont leurs élections. L'Iran, eux, c'est un pays qui est calibré depuis des décennies pour encaisser des guerres sur son territoire. On l'a amplement dit partout, un gouvernement et une armée qui est décentralisée, des choses qui sont enterrées. Eux, ils sont pas pressés, ils ont le temps. Évidemment, leur population trinque, mais ils s'en fichent. Donc on pourrait reprendre les raisons de la guerre. Ça pourrait être intéressant, mais structurellement, fondamentalement, les États-Unis ont perdu. Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort de cet accord de paix? Eh bien, tout ce que les Iraniens ont voulu. Le détroit d'Ormuz est rouvert gratuitement pour l'instant, mais tout le monde a compris que ça allait être payant d'une manière ou d'une autre derrière. Ils n'ont pas d'interdiction formelle de leur programme nucléaire. Le régime des Mollahs est toujours là. Les sanctions sont levées. Ils sont en train de renégocier tous leurs accords avec leurs pays voisins, où les bases américaines sont en Lego. Les Américains se sont fait bombarder par les Iraniens et ne s'y attendaient pas à celle-là. Il n'y a plus de bases américaines au Proche-Orient intactes. Les pays du Golfe ont tous compris que le parapluie militaire américain ne les protégeait plus. On est en train d'arriver dans autre chose que le pétrodollar. Ça sert à rien d'être l'allié aux États-Unis, l'allié des États-Unis au Proche-Orient, à part se faire bombarder. Ça sert à rien. Donc il y a un monde qui est complètement en train de se retourner, entièrement à cause de ce délire américain ou israélo-américain, ça je ne sais pas. Et pour les États-Unis, la situation aujourd'hui est mille fois pire pour eux que ce qu'elle était avant la guerre. Pour l'Iran, si l'on retire les morts, les Mollahs s'en fichent des morts, si l'on retire les civils qui ont été tués par les bombardements américains, ils sont dans une situation mille fois meilleure.
Oui, Rodolphe, vous vouliez intervenir également.
Oui, bah justement, ça, c'est aussi un avertissement, j'ai envie de dire, pour les sociétés ouvertes du reste de l'Occident et notamment de l'Europe. On s'est rendu compte, avec le cas iranien, qui était un pays sous multiples sanctions depuis des années, qui avait réussi à construire, j'ai envie de dire, ou en tout cas, leur pays sur des bases vitales qui leur permettaient de continuer la guerre. Alors, il y a la pratique de la guerre asymétrique, oui, certes. Mais en revanche, on s'est rendu compte, bah, c'est un peu avec le cas aussi de la Russie actuellement. À force d'empiler des sanctions, bah, les pays continuent à fabriquer des ingénieurs, je ne vais pas faire mon Emmanuel Todd à ce micro, mais la faculté de constitution d'ingénieurs sur son propre sol qui peut continuer avec une base industrielle, bah c'est ça la véritable puissance en réalité d'un peuple. Et on moquait toujours par exemple la Russie en disant qu'elle avait le PIB de l'Espagne, etc., etc. Or, on s'est rendu compte, et pareillement avec l'Iran, que des pays qui continuent à faire des ingénieurs qui ont encore des entreprises sur leur sol, même si c'est peut-être pas des entreprises aussi développées que les États-Unis ou même que la Chine, ont une capacité de résilience très forte. Alors il y a le coup de la guerre asymétrique, la Russie est quand même assise sur un empire aussi de matières premières, etc., ce qui leur permet aussi d'avoir un peu de profiteur de fonds, ce qu'on n'a peut-être pas en Europe. Mais là on voit surtout, pour continuer dans le sens de Nicolas, que c'est encore un camouflet, un énième camouflet pour les sociétés ouvertes, libérales, qui nous peut-être nous projettera sur le second sujet de notre entretien. Et l'autre éléphant, pour finir ma prise de parole, l'autre éléphant au milieu de la pièce, c'est la Chine aussi. La Chine est apparue aujourd'hui comme un concurrent, ou en tout cas, dans certains cas, un allié avec l'Iran. Apparemment, il y aurait eu des échanges d'informations. On sait que sur une des bases, il y avait eu un bombardier, il me semble, américain, qui avait été visé. Alors, soit avec une partie d'information de la Russie, soit avec la Chine, mais on sent qu'il y a eu un soutien quand même, il faut le noter, alors que la Chine avait été plutôt moquée. Vous en souvenez avec l'enlèvement de Maduro, où il y avait des systèmes anti-aériens chinois qui n'avaient apparemment pas fonctionné, ils avaient été plutôt moqués. Mais là, on voit plutôt qu'il y a une capacité aussi de la Chine d'assister, en tout cas peut-être pas des alliés, mais en tout cas des personnes qui peuvent un peu faire une guerre comme ça par proxy, si je puis dire. Et la Chine, même pour finir, sur le pétrole, a agi de manière raisonnable. Il y a eu un article dans le Figaro qui est sorti récemment en montrant que la Chine a essayé aussi de résorber. Donc, quelque part, elle a rendu un petit peu service aussi aux États-Unis dans cet emballement. Et là, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place dans le monde. Et là, on voit que l'Occident, malheureusement, une fois de plus, en sort quelque peu cabossé. Donc là, ça pose question pour la France et pour l'Europe aussi dans les années à venir.
Cabossé, et on ne le dit pas assez, juste une seconde. Il y a eu un excellent article dans Le Monde, pour une fois hier, sur cet aspect-là de la guerre au Moyen-Orient, et qui donnait la parole assez largement à des responsables et à des analystes réputés aux États-Unis, je ne connais pas leur nom, mais Le Monde est quand même un journal sérieux, qui étaient tous d'accord et pour annoncer que c'était une grande défaite militaire aux États-Unis. Il y en a même un, j'ai oublié son nom, qui disait que c'était la plus grande défaite militaire depuis le Vietnam.
Peut-être Mersheimer, peut-être, non
Je ne sais plus.
Alexandre, vous vouliez intervenir?
Oui, mais c'était pour compléter, enfin aller dans le sens de ce que disaient Nicolas et Rodolphe sur la défaite américaine, qui est en fait, les Américains ont perdu la guerre, effectivement, qu'ils ont menée pour Israël. Et ça rejoint ce que disait aussi Gabriel tout à l'heure sur les oppositions que ce plan d'attaque de l'Iran avait de toute l'administration Trump. Et d'ailleurs, il y avait cet Américain, Joe Kent, qui était le directeur du Centre national d'antiterrorisme, qui a démissionné avec fracas au printemps de cette année en disant explicitement, hein, il l'avait écrit noir sur blanc dans sa lettre de démission, sa lettre publique, que la guerre engagée contre l'Iran n'était pas une guerre pour les États-Unis, mais bien une guerre en faveur d'Israël. Donc il y a une perte de soutien de la part effectivement de l'exécutif, de part certaines personnalités républicaines. Et il y avait aussi la personne dont on a entendu parler peut-être moins en France, c'est le républicain Thomas Massie, qui avait aussi des positions extrêmement critiques vis-à-vis de toute l'implication américaine en faveur d'Israël. Et en plus de cela, si les Américains ont arrêté les frais, pour les raisons que Nicolas a évoquées sur l'absence, enfin, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus rien, c'est que les Américains ont une vision un peu quand même qui reste pragmatique des relations internationales et de la situation au Moyen-Orient, alors que le gouvernement Netanyahou est dans une vision eschatologique où son environnement proche doit être transformé au fur et à mesure en grand Israël. Donc il y a effectivement un sentiment de trahison, à mon avis, de la part des Israéliens et les Américains arrêtent les frais.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que ce fameux accord dont nous parlons a été négocié donc sans la participation ni le consentement d'Israël, et ce qui a été perçu à Tel Aviv comme une trahison évidemment, et même une mise à l'écart entachant profondément les relations avec les États-Unis. Netanyahou et de nombreux responsables israéliens ont même qualifié cet accord de catastrophe stratégique et de capitulation. Alors, les points de friction principaux sur cet accord sont évidemment le cessez-le-feu au Liban imposé par l'accord, alors qu'Israël voulait évidemment continuer ses opérations contre le Hezbollah et ses bombardements sur le Liban. Trump a d'ailleurs publiquement critiqué Netanyahou pour ses frappes jugées inutiles et perturbatrices. Alors, de son côté, Netanyahou a rappelé qu'il n'était pas tenu par cet accord, puisqu'il ne l'avait pas signé, mais Trump, lui, a rappelé que c'était quand même lui qui décidait et que ce serait dommage pour Israël de tout gâcher, je cite.
Nicolas. Pardon, coupé. C'est l'Iran. C'est pas Trump qui a décidé ça tout seul. C'est pas Trump qui a décidé de gronder Netanyahou. C'est l'Iran qui a dit il n'y a pas d'accord si les États-Unis ne tiennent pas Netanyahou en laisse. Donc en fait, moi j'ai bien l'impression que c'est l'Iran, par solidarité pour acquérir une position dominante au Proche-Orient, qui a exigé des États-Unis qu'ils rompent avec leur allié. Alors peut-être que les États-Unis, ça les arrange plus ou moins, mais ça fait partie, depuis le début, des demandes fondamentales, enfin des demandes, des exigences de l'Iran, qui utilise Trump contre Israël.
Alors, il est peut-être un peu tôt quand même pour parler de rupture, puisque évidemment les accords militaires, les livraisons d'armement, etc., rien de cela n'est remis en cause tout de même entre les États-Unis et Israël. Donc, on est peut-être dans une étape de cet éloignement, mais parler de rupture, c'est peut-être un peu tôt.
Alexandre. Oui, mais il y a effectivement une rupture est peut-être un terme un peu. On s'avance peut-être un petit peu, mais il y a tout du moins quand même une mise en garde ferme du gouvernement américain via J.D. Vance. Là, je crois que c'était le 18 juin dernier, qui a quand même exprimé au gouvernement israélien que Trump était le dernier soutien qu'il leur restait, qu'ils étaient détestés partout ailleurs et qu'ils devaient quand même se garder de trop attaquer Trump et son gouvernement, parce que si jamais ils devaient véritablement les lâcher, ça serait la situation d'Israël et du gouvernement de Netanyahou serait tout autre. Donc je pense que la mise en garde de Vance était assez claire sur la question. Ouais.
Gabriel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que c'est une véritable défaite complète pour les États-Unis et que l'Iran finalement a imposé ses conditions?
Alors, on attendra de voir si le régime iranien finit par tomber ou pas. Moi, j'attends de voir si c'est ou pas une défaite. Si ça se trouve, il tombe dans 4-6 mois et dans ce cas-là, les États-Unis auront gagné. Peut-être qu'il tombe dans 4-5 ans et qu'il aura été fragilisé par cette guerre. Il faut voir aussi qu'est-ce que fait la population iranienne. C'est vraiment l'absent de tous les plateaux télé. S'ils veulent être libres, moi j'attends qu'ils se révoltent et j'attends qu'ils profitent justement que le régime soit affaibli pour y aller. Le problème, c'est que ça devient une vraie défaite si effectivement les États-Unis participent à reconstruire massivement l'Iran. Donc en fait, ils demandent pardon à genoux, hein, d'une certaine manière, et ils contribuent à renforcer à nouveau le régime. Et donc la population ne pourra pas profiter comme ça d'un moment, d'un laps de temps où l'élite qui les opprime, ça je le pense vraiment, est affaiblie. Donc là pour moi, ce sera une vraie défaite. Après, est-ce que, en tout cas, je pense que pour l'instant, on peut dire que du côté des gardiens de la Révolution, ils ont gagné, puisque gagner pour eux, c'était survivre à cette guerre. Maintenant, quels étaient les objectifs américains concrets? Est-ce que c'était d'obtenir qu'ils cessent d'enrichir de l'uranium? Ça, je pense que c'est obtenu. Est-ce que c'était de faire tomber le régime pour libérer la population? Ça, c'est un échec complet. C'est aussi cette utilisation des détroits d'Hormuz par le régime iranien risque aussi de lui coûter à long terme, puisque désormais les pays qui se fournissaient en pétrole iranien veulent diversifier leur approvisionnement et ne plus devoir compter sur être exposé à l'instabilité géopolitique d'un pays qui est irrationnel. Parce que parfois, j'ai vu beaucoup critiquer sur les plateaux télé l'irrationalité de Donald Trump, son ego surdimensionné, mais alors le régime iranien est justement lui aussi lui-même très irrationnel. Peut-être plus réfléchi, mais irrationnel idéologiquement, à mon sens en tout cas. Et c'est un facteur de déstabilisation du Moyen-Orient. Donc on le voit encore dans ces projets de pipeline qui coupent par l'Arabie Saoudite pour éviter le détroit d'Hormuz. Ça existe déjà, mais donc ils veulent renforcer ça pour éviter d'être exposés à l'Iran. Et l'Iran perd à long terme, ça je le pense.
Alors sur la situation intérieure, oui, sur la situation de la population iranienne, il y a des observateurs qui sont pas d'accord en fait. Il y en a certains qui disent le régime est quand même lourdement fragilisé, ça peut casser dans les prochains mois ou les prochaines années. D'autres qui disent, et c'est pas inintéressant, que en effet la suppression, qui est quand même ils ont quand même liquidé pas mal de mollahs, a renforcé les gardiens de la révolution. Mais que les gardiens de la révolution, ils sont plus intéressés apparemment par le business, par l'argent et par la gestion de l'économie que par les questions de morale religieuse extrêmement stricte, et qu'ils seraient justement, eux, prêts à lâcher un peu de lest sur les questions sociétales, la question des mœurs, pour apaiser d'une certaine façon leur population et leur opinion publique, tout en gardant la main sur le pouvoir et sur l'économie. Et là, ce serait en effet la défaite complète, puisque la contestation serait apaisée par quelques réformes ou réformettes, et le pays est en passe d'être reconstruit, en tout cas il y a de l'argent qui va être investi, économiquement ça risque de mieux fonctionner, et donc de renforcer aussi cet état de fait. Enfin, ça il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas ce sera à suivre avec grand intérêt. Est-ce que quelqu'un veut encore dire un mot sur ce sujet avant que nous passions au suivant?
Non. Comme d'habitude, tout se jouera avec la bascule ou non de la classe moyenne. C'est un sujet aussi qui doit nous préoccuper en Europe dans les années à venir. On sait qu'une partie de la classe moyenne iranienne s'éloigne de plus en plus du religieux. C'est vrai, on sait qu'il y avait eu des difficultés sociales, notamment à cause des différents embargos. Bon, bah, par contre, peut-être qu'on... quelque chose qu'on avait sous-estimé du point de vue de l'Iran, c'est le côté nationaliste aussi. Oui, il y a une volonté, je pense, par une large part du pays, justement, de se débarrasser, on va dire, du côté religieux, mais par contre, le sentiment national est tout à fait fort en Iran. Et ils ont développé, à mon avis, un sentiment irrédentiste qui fait que le pays tient, parce qu'on a mentionné le cas du changement de régime, mais souvenez-vous aussi que souvent, on a essayé un peu de jouer sur les minorités ethniques du pays pour provoquer aussi des dislocations internes. Là, on est dans un cran au-dessus, j'ai envie de dire, de la destruction d'un pays, parce que là, on n'est plus dans un seul changement de régime, mais dans la destruction interne d'un pays. Et là, on voit que, justement, le lien national a réussi à se resserrer grâce à ces événements. Jusqu'à quand, c'est une des questions aussi. On sait que le côté social peut jouer. Mais là, c'est vrai qu'il faut voir, peut-être pas trop dire tout de suite qu'il y a eu une défaite, même si les indicateurs sont au vert pour aller dans ce sens, et peut-être voir, oui, dans les mois à venir, dans les années à venir, comment la situation va échanger. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai quand même, on peut dire plutôt balle du côté de l'Iran. Quoi.
Merci messieurs, on se retrouve après un petit bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement. Pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Toujours dans le studio de Radio Courtoisie, où il fait presque frais, hein, c'est appréciable. Toujours en compagnie de Rodolphe Carr, Gabriel Pignès, Alexandre Nantas et Nicolas de Groot. Nous allons aborder le second sujet de cette, émission, qui est donc, faut-il être de gauche pour combattre le libéralisme ? Alors pourquoi avoir choisi ce sujet ? Ben, d'une part parce que le combat contre le libéralisme, la dénonciation du libéralisme est l'un des fondements du combat politique de la nouvelle droite. Et parallèlement, parce que souvent, quand on s'oppose au libéralisme ou qu'on dénonce le libéralisme, eh bien, on est immédiatement taxé de gauchiste, de communiste, de collectiviste, enfin, et autres termes en isme divers et variés. Et donc, c'était intéressant, je pense, de revenir sur cette thème et sur ce thème, et d'expliciter l'anti-libéralisme de la nouvelle droite, et surtout déjà peut-être le définir, parce qu'en effet, quand on veut débattre d'un sujet, il faut le définir, et ça, c'est la première difficulté, parce qu'en fait, le libéralisme, il n'y a pas qu'une seule définition. Quand vous parlez de libéralisme avec les gens, il y a parfois cinq personnes, il va y avoir cinq définitions différentes du libéralisme. Alors, est-ce qu'il est possible déjà de définir clairement le concept ? Alors là, je me tourne vers le philosophe Nicolas de Groot. Est-ce que vous pouvez essayer de nous donner une définition de ce qu'est le libéralisme ?
Oui, je pense qu'on peut. Il y a beaucoup de textes, beaucoup d'écrits qui ont été publiés sur ce sujet-là depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut faire par étapes. Gabriel Pignès sait sans doute ça beaucoup mieux que moi, mais à l'origine, au commencement, le libéralisme, c'est une doctrine politique, qui date du 18e ou du 19e siècle, et qui se caractérise, pour y aller très en gros, par la volonté d'introduire davantage de liberté du peuple en politique, par exemple, une presse libre, non censurée, le droit d'association, d'opinion, etc. Bon. Ça, c'est le premier libéralisme. Ensuite, petit à petit, les choses évoluent et le libéralisme mute un peu pour un tas de raisons. Et le libéralisme désigne quelque chose qui rime quand même plus ou moins avec le capitalisme. C'est-à-dire que le libéralisme qui était de la politique devient de l'économie au sens large. Et en gros, capitalisme et libéralisme sont à peu près synonymes. La différence, on pourrait la définir comme ça. Le capitalisme, c'est une organisation de l'économie qui recherche avant tout le profit pour le profit et qui est basé fondamentalement sur le salariat. Définition ordinaire du capitalisme, une économie de marché orientée vers le profit. Le libéralisme, ça correspondrait à la philosophie, l'idéologie, la politique qui correspond à cette organisation économique. C'est l'organisation de la société et les représentations mentales et culturelles qui sont appelées pour cela. Le libéralisme règne en même temps que le capitalisme et le libéralisme mute et devient le néolibéralisme un peu après la Grande Dépression. Le moment clé, c'est 1938, le colloque Lippmann à Paris, et on bascule dans du néolibéralisme. Le néolibéralisme règne encore aujourd'hui, nous vivons une époque néolibérale. Quelle est la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme ? C'est que dans le libéralisme classique des origines, l'État est assez absent et intervient peu, laissez faire. Dans le néolibéralisme, en raison de la crise de 1929 qui a amené des politiques publiques très invasives en économie, le néolibéralisme se caractérise par l'action tous azimuts de la politique et de l'État afin de favoriser ou de développer l'économie de marché. Donc l'État est là pour agir sur la société, pour la rendre compétitive, attractive, etc.
Très bien, merci. Merci. Non, mais j'attendais peut-être une suite, mais c'est parfait. Alors, comme nous sommes le libre journal de la Nouvelle Droite, moi, je vais vous donner une définition aussi, mais qui est celle, on va dire, d'Alain de Benoist, hein, qui est donc la figure tutélaire de la Nouvelle Droite. Donc, c'est un résumé. Hein, il a écrit beaucoup sur le sujet. J'espère ne pas trop trahir sa pensée. Je ne pense pas. Donc, pour Alain de Benoist, le libéralisme est avant tout une idéologie, à la fois philosophique, politique et économique, qui repose sur une anthropologie erronée. L'homme y est vu comme un homo economicus, un individu autonome, autosuffisant, propriétaire de lui-même, mu principalement, voire exclusivement par la recherche de la maximisation de son intérêt personnel et son profit privé. Cet individu est conçu comme non social par nature ou pré-social, détaché de ses appartenances, héritage culturel ou communautaire. De ce fait, pour le libéralisme, la société n'est qu'une somme d'intérêts particuliers, sans bien commun réel au-delà de l'agrégat des préférences individuelles. Ce qui entraîne la primauté de l'individualisme et de l'économisme. Le marché devient le paradigme principal de toute réalité sociale. Le libéralisme consacre donc le règne du non commun. Il dissout les communautés, les peuples et les souverainetés au profit de l'individu abstrait et des forces impersonnelles du marché. De Benoît distingue de ce fait la liberté libérale, liberté individuelle négative, affranchissement de tout ce qui excède l'individu, de la liberté tout court, qu'il défend évidemment, et qui est indissociable pour lui du commun, liberté du peuple, d'une culture, d'une communauté. Le libéralisme est à la liberté ce que l'égalitarisme est à l'égalité, dit-il. En résumé, le libéralisme n'est pas une doctrine de la liberté ou de la tolérance, mais une vision du monde qui réduit l'humain et la société à des atomes économiques au détriment du politique, du symbolique et du bien commun. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition qui est peut-être un peu plus large, parce que la vôtre était plus économique, on va dire.
C'est plus développé. Évidemment, il a entièrement raison. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le libéralisme est quelque chose comme une vision du monde, une conception de la vie, de la société et de l'individu, l'homo economicus, qui est directement lié et en prise directe sur une organisation de l'économie qu'on appelle le capitalisme. Donc on sort pas du libéralisme sans sortir du capitalisme et on sort pas du capitalisme sans sortir du libéralisme. La vision du monde va avec l'organisation économique.
Oui, et en écoutant cette définition, on voit bien en quoi un homme de droite conséquent peut et doit s'opposer à cette vision, en tout cas, du libéralisme. Qu'en pensez-vous, Rodolphe Carr ?
Peut-être faire aussi un retour qui annonce ce qu'a dit Nicolas avec le moment des guerres de religion. C'est Jean-Claude Michat qui insistait pas mal, justement, sur non pas la privatisation des grands universaux, le bon, le juste, le vrai, mais au moment des guerres de religion qu'ont connu, justement, les sociétés européennes, comment construire une relative paix intérieure entre des personnes qui ont une vision de la vérité, une vision de la foi, une vision de Dieu différente. Je pense que c'est aussi une bonne base sur laquelle partir. Peut-être nous, ce qui nous différencie à la Nouvelle Droite, et moi c'est là-dessus que j'ai toujours eu une appétence pour la Nouvelle Droite, c'est que on n'a jamais voulu segmenter le libéralisme justement avec ses différentes facettes. Il y a des différentes facettes qui sont différentes, celle du politique, celle de l'économique, pourquoi pas de l'anthropologique. Et nous, on a essayé toujours de démontrer, notamment Alain de Benoît dans son livre Contre le libéralisme, qu'elles étaient forcément liées, ou en tout cas qu'elles marchaient en symbiose. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours largement opposé aux libéraux conservateurs qui, eux, pensent que des cloisons peuvent être mises, dans le domaine économique, mais pas dans le domaine sociétal. Alors que nous, en tout cas, via différents auteurs de Nouvelle Droite, on a montré qu'il y avait véritablement une continuité. Et peut-être aussi mentionner que l'évolution du libéralisme a accompagné l'évolution des conditions matérielles d'existence des hommes, tout simplement par le développement des technologies, par le développement des échanges, et que souvent, le développement, le badigeon libéral politique a accompagné en réalité une volonté de déchaîner le libéralisme économique, et que souvent le libéralisme politique a juste été le prête-nom pour accompagner sous des beaux oripeaux le libéralisme économique. Et ensuite, je ne sais pas si on viendra plutôt sur la situation française. Moi, je pense qu'il faut en parler aujourd'hui de cette opposition illibérale, libérale ou même post-libérale, parce que je pense que depuis le 19e siècle, en réalité, c'est le clivage de fond de la société française. On pourra revenir dessus, mais c'est, vous savez, cette fameuse tripartition du 19e siècle entre d'un côté les bleus qui sont les héritiers de la révolution, qui sont souvent les promoteurs du libéralisme politique, d'un côté les blancs, parangons de la contre-révolution, et de l'autre côté les rouges, qui sont pas à la gauche, qui sont à l'époque le socialiste, parce que là, il y a eu une malversation, on va dire, à la fin du 19e siècle. Et je pense que là, il y a vraiment cette opposition qui est le soubassement, alors qu'on essaie souvent de nous vendre une présentation de la vie politique française, axe de gauche, axe de droite, qui a aussi ses vérités. Mais je pense que le clivage de fond, illibéralisme et libéralisme, est le véritable clivage, parce que là aussi, c'est un des fers de lance de la Nouvelle Droite, c'est la protection des libertés concrètes, des libertés avec un S, et jamais de la liberté comme d'un mot générique. Sous derrière, on peut ranger énormément de choses, et je pense que ça aussi, c'est un des intérêts de la Nouvelle Droite, c'est de dire que la liberté n'existe pas, il n'y a que des libertés avec un S concrètes, communales, économiques ou même de propriété.
Alexandre.
Oui, bah enfin tout ce qui a été évoqué, évidemment, je vais pas revenir dessus. Il faut effectivement évoquer aussi peut-être l'anti-libéralisme de droite, qui est effectivement le fer de lance de la nouvelle droite, mais qui se retrouve également dans la doctrine de l'Action française, où notamment, enfin Charles Maurras et l'Action française, pour qui le libéralisme est l'héritage de la Révolution. Et qui détruit tous les corps intermédiaires, donc qui fait effectivement, et là la critique du libéralisme de l'AF et de la nouvelle droite se rejoignent, qui transforme l'individu en atome, en monade, totalement isolé et coupé de tous les attachements, de tous les liens, qui pour reprendre cette expression, c'est en vogue dans les milieux décroissants, de ces liens qui libèrent. Donc c'est effectivement... Une question essentielle, et sur la question du libéralisme et du capitalisme, je voulais simplement dire mon accord avec Nicolas, c'est que enfin, le libéralisme est une doctrine, le capitalisme une infrastructure, et c'est le capitalisme est la meilleure infrastructure pour le développement de la doctrine libérale, c'est évident, on ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre. Ça, c'est...
Gabriel, vous, alors êtes-vous antilibéral, libéral, et dans l'un ou l'autre cas, pourquoi ?
Antilibéral sur le plan philosophique, oui, totalement, sans aucune réserve. En revanche, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que capitalisme soit aille nécessairement de pair avec une vision libérale de la société et de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'on observe en Asie des régimes qui sont capitalistes, la Chine... prétendue Chine communiste est en réalité capitaliste, le Japon est capitaliste, toute l'Asie désormais est capitaliste, et pourtant ils ne sont pas tombés dans le remplacisme global, ils ne sont pas tombés dans l'orme interchangeable, et ils gardent malgré tout un lien avec leurs racines, une constance ethnique, et ils refusent l'immigration de masse venant d'autres continents qui pour eux n'a strictement aucun sens. Donc oui, certes, le capitalisme, je n'en doute pas, à participer à détruire des cultures, des traditions en Chine, par exemple. Alors, il y a eu la révolution, il y a eu le communisme, il y a eu la révolution culturelle, mais le capitalisme aussi participe à recréer une nouvelle Chine qui, parfois, n'a plus grand-chose à voir avec la précédente, mais les gens sont quand même chinois. Donc, c'est pas pour autant qu'on a des migrations de masse et une vision qui soit libérale de la société au sens où l'humain serait interchangeable et où l'humain ne serait vu que sous un prisme économique. Je suis pas sûr que tout cela aille de pair nécessairement avec le capitalisme. Et je pense même d'ailleurs, moi je pense que l'ennemi c'est plus l'universalisme à mon sens. Et je pense qu'en tout cas dans la nouvelle droite vous pourrez être d'accord avec ça. En tout cas cet universalisme abstrait, moi je suis pour un universalisme qui part du particulier et donc de la pluralité. Voilà.
Oui, ben c'est intéressant. En effet, cette distinction entre peut-être des capitalismes, on va dire locaux, qui n'ont pas les mêmes conséquences ou les mêmes que sous nos horizons. Oui, vous vouliez ajouter, pardon.
Oui, et je voudrais ajouter d'ailleurs qu'à mon sens, ça pourrait être nuancé ou développé, mais je pense que coupler capitalisme et libéralisme a abouti nécessairement donc à une vision universaliste de la société et à des systèmes qui sont incapables des sociétés qui sont incapables de se régénérer par elles-mêmes et de se reproduire par elles-mêmes puisque notre système a créé en fait a délocalisé je le dis avec des termes économiques mais c'est pas ma vision mais a délocalisé la production d'enfants d'une certaine manière a délocalisé la production de vie puisque désormais pour que les gens puissent profiter de la vie consommer et avoir une vie consumériste axée sur les plaisirs mais dans ce cas il faut que les femmes africaines et maghrébines viennent et fassent plus de 2 enfants par femme sinon la société de consommation ne peut pas se perpétuer par elle-même. Donc je pense que justement, je pense que c'est un problème pour le capitalisme lui-même, parce que ça crée à la fin nécessairement des sociétés dysfonctionnelles qui créent des troubles, et je ne suis pas sûr que le capitalisme lui-même en sorte gagnant à long terme.
Et bien sûr, et là on voit justement une des incohérences de ce qu'on appelle le libéral conservatisme, justement. Je voulais revenir sur cette notion qui est très prégnante à droite, qui est en effet de penser qu'on peut être libéral économiquement et conservateur sociétalement ou au niveau des mœurs, etc. etc. Et ça, il y a une grosse incompréhension, je pense, là-dessus. Là, je parle évidemment, pour le coup, en France et en Europe. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, ce serait intéressant de l'étudier, mais on voit bien que là il y a une contradiction interne qui est difficilement dépassable, parce que le libéralisme économique exige des conditions qui sont antinomiques d'une société traditionnelle et conservatrice. C'est-à-dire les présupposés sont totalement opposés. Le libéralisme a besoin de l'innovation perpétuelle, a besoin de la déréglementation, a besoin de l'ouverture permanente, de plus en plus importante à l'international et au mondial, a besoin de main-d'œuvre, en effet, importée de l'autre bout du monde, tandis qu'une société conservatrice, elle, c'est l'inverse. Elle a besoin de frontières, elle a besoin de permanence, elle a besoin de réglementation, de limites, de temps long. Donc les deux ne peuvent pas fonctionner l'un avec l'autre. D'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, même, je dirais presque toujours, quand les gens s'affirment libéral, conservateur, et qu'il y a une opposition concrète qui se fait entre les problématiques libérales et les problématiques conservatrices, c'est en général le libéral qui l'emporte. Si vous avez une interrogation sur la préservation d'une forêt ou le fait de faire une bonne opération boursière en y installant un parking ou un supermarché, en général, le libéral conservateur fait rapidement son choix. Donc en fait, il y a vraiment, c'est une aporie totale que de penser, se penser et s'affirmer libéral conservateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas de Groot? Oui, pardon. Non, Alexandre, bien sûr.
Non, c'était juste pour aller dans votre sens, enfin, et notamment c'est aussi de pointer l'impossibilité, effectivement, d'être libéral-conservateur, mais de pointer le lien qu'il y a entre le libéralisme sociétal, parce qu'on a parlé effectivement du libéralisme politique, du libéralisme économique, mais effectivement, il y a aussi le libéralisme sociétal, enfin, qu'on pourrait rapprocher avec mai 68. Énormément de gens qui ont participé à mai 68 ou qui ont été dans des mouvements de gauche à ces époques, dans les années 60, 70, etc., on les retrouve aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et en particulier en France, dans des milieux parfaitement libéraux. On peut penser à des gens... pas énormément de néoconservateurs, déjà, on était à ce niveau-là aux États-Unis, et en France, on peut penser à des gens comme Bernard Kouchner, comme Daniel Cohn-Bendit, ou comme énormément de comme André Glucksmann, comme énormément de penseurs de cette époque, où on voit bien qu'il y a des liens, un glissement. On était contre, il était interdit d'interdire sociétalement et au niveau des mœurs en 1968, et aujourd'hui il y a toujours cette doctrine du laisser-faire et de la libre circulation des biens, des marchandises, et tout cela s'accorde. Donc on voit bien que si le libéralisme sociétal s'accorde in fine après les éruptions de jeunesse des années de la vingtaine dans les années 60, aujourd'hui, ils se sont parfaitement accommodés des réalités et des réalités libérales de la société contemporaine en termes économiques et politiques. Et si ces deux-là s'accordent, il est clair que le libéralisme ne peut pas s'accorder avec une forme de conservatisme.
Rodolphe Carr.
Oui, puis moi, j'aimerais revenir sur une légende qui est un peu énervante. C'est que pour défendre la propriété, pour défendre les libertés individuelles, il faudrait se réclamer du libéralisme. Or non, nous qui sommes français et européens avons des traditions, nous avons des penseurs depuis des millénaires qui pensent ces questions, je pense aux antiques ou même à la greffe ensuite du christianisme. Nous n'avons absolument pas besoin de nous référer à un corpus qui est quand même circonstancié dans l'histoire d'auteurs libéraux qu'il faut analyser, pourquoi pas, évidemment, il parle à la question, mais disons qu'il faut sortir aussi dans cette logique aussi que, par exemple, les logiques de puissance, de développement ou même d'industrie soient forcément des domaines réservés aux libéraux. Non, on peut être protectionniste. Gabriel mentionnait le cas des régimes asiatiques. On aurait pu aussi mentionner Singapour. Ce sont des modèles de protectionnisme, de développement intérieur qui n'ont pas eu besoin d'une force extérieure comme on est en train de nous vendre, ou en tout cas une partie des patrons, souvent avec les métiers sous tension, etc., etc. Donc je pense en réalité que... il faut redévelopper aujourd'hui une pensée proprement française et même européenne de développement intérieur sans qu'on ait à reprendre forcément les armes du libéralisme. Et moi qui suis un peu en décalage avec certains peut-être de la nouvelle droite sur le point, moi j'ai plutôt une vision de volonté de puissance justement pour justement que mon pays soit souverain. Et ben justement on n'a pas besoin forcément de se référer au libéralisme pour protéger par exemple la propriété individuelle. Déjà les antiques l'avaient déjà formidablement fait. Et Et d'ailleurs, même les républicains avaient repris les notions de petits propriétaires pour avoir des républiques, par exemple, sur le modèle de Robespierre. Donc, je pense là-dessus, il faut aussi sortir, comment dire, de ces carcans et ne plus délaisser à une grande partie des libéraux des mots comme la propriété, les libertés. Il faut vraiment se les réapproprier parce que ça, ça fait partie aussi de notre histoire, notre longue histoire en tant que Français et Européens.
Oui, vous faites bien de le rappeler parce que c'est souvent des raccourcis qui sont faits, comme je le disais au début de ce débat. Être contre le libéralisme, c'est pas être contre la propriété privée, c'est pas être pour la collectivisation ni le collectivisme. Il y a évidemment des systèmes intermédiaires et en effet, la France et l'Europe ont vécu des siècles et avec des propriétés privées, du travail, de l'artisanat, sans que ce soit des sociétés libérales. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas ?
Oui, je pense que ce que vous venez de dire, Rodolphe et Thibault, est essentiel. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir par les mots. Le libéralisme n'est pas une doctrine de la liberté des individus. Hein, le liberté dans libéralisme, c'est la liberté du marché. C'est pas la liberté des individus. Et les grands théoriciens du libéralisme, je pense notamment à Hayek, écrivent noir sur blanc, sans sourciller, c'est dans La Route de la Servitude, que la liberté du marché implique la servitude des individus. Nous sommes soumis au marché. Les hommes politiques sont soumis aux lois des marchés, pour des raisons toutes simples. Hein. C'est-à-dire que toutes décisions politiques doivent être financées, on se finance auprès des marchés, les marchés financent ce qui leur plaît, ne financent pas ce qui leur plaît pas. Donc la doctrine de la propriété privée, c'est tordant, mais le principe de base du libéralisme, c'est l'entreprise. Mais dans une entreprise, notamment une entreprise mondialisée, c'est l'entreprise de base, les employés ne sont pas du tout propriétaires. Le libéralisme se définit par la propriété par quelques-uns, qu'on appelle les actionnaires. La propriété privée du logement, aujourd'hui, elle est en berne. Bien sûr, ça existe en droit, mais en réalité, la plupart des gens ne sont pas propriétaires de leur logement, et c'est de plus en plus difficile. La propriété privée de sa voiture, c'est de plus en plus rare avec le leasing. On n'est même plus propriétaire de sa musique, on a un abonnement sur des sites internet dont je ne connais pas le nom, mais je sais que ça existe. Donc en fait, moi je trouve ça très drôle, c'est-à-dire on nous vante le libéralisme comme étant le régime de la liberté, on oublie de dire que c'est la liberté du marché. Le régime de la propriété privée, on oublie de dire que c'est la propriété privée pour quelques-uns, mais pas pour la majorité, etc. Là-dessus, il faut être, je crois, très vigilant sur les mots.
C'était la phrase de Klaus Schwab, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », qu'avait prononcé l'ancien patron, oui. Je crois, de Davos. Et c'est effectivement sur la musique, sur le leasing, sur tout ça, rien ne vous appartient véritablement en propre.
Et notamment, on n'est pas propriétaire de ce qui est, je crois, le plus important, c'est l'outil de production. La plupart de la vie se passe par le travail. Et c'est ça qui fait l'humanité de l'homme. Et c'est pas dans le travail et par le travail, quand c'est un travail librement choisi, etc., pas un travail moderne, capitaliste, dégueulasse. Mais c'est par le travail qu'on entre en relation avec la nature, qu'on entre en relation avec son prochain, qu'on entre en relation avec sa communauté, avec son village, avec sa ville, qu'on entre en relation avec les anciens qui nous ont transmis les techniques, les outils, etc. Aujourd'hui, plus personne n'est propriétaire de cet outil essentiel. Et je pense qu'une des premières critiques du libéralisme, une première critique à mener, serait une réappropriation par l'ensemble des Français, que le paysan soit propriétaire de son champ et de son tracteur, que ce soit plus une banque, que le boulanger soit propriétaire de son four et de sa boulangerie, et pas que ce soit la banque. Et par conséquent, que l'employé soit propriétaire de son usine, et pas son actionnaire, et que l'ouvrier, même chose.
Il faudrait qu'on ait encore des entreprises en France aussi, enfin, en tout cas des industries.
Oui, oui, mais et c'est là qu'on voit bien qu'en fait, y a toute une démarche à mener pour... Parce que c'est facile de dire « je suis anti-libéral », d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais pas tout, mais des gens qui sont capables d'élaborer un programme de sortie du libéralisme cohérent, pas un truc de l'URSS, c'est pas ça qu'on veut, tout le monde a compris. Mais en fait, moi, j'en connais qu'un. Hein. Qui ? Qui est capable de sortir un programme anti-libéral réel ? Moi, j'en connais qu'un, il s'appelle Bernard Friot. Le problème, c'est que ça va faire hurler, mais Bernard Friot est communiste. Il est communiste et catholique. Alors, pour lui, communiste, c'est pas l'URSS. Hein. Il définit le communisme par, non pas l'URSS, mais la sortie du capitalisme ou la sortie du libéralisme. Je veux bien qu'on ne suive pas Bernard Friot, mais qu'est-ce qu'on propose? Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage à Nouvelle Droite, et je suis le premier à m'inclure là-dedans, c'est qu'on dit beaucoup « je suis contre »,
On va devoir vous sortir hein, si vous commencez à critiquer la nouvelle droite.
On dit beaucoup je suis contre, je suis anti-capitaliste ou je suis anti-libéral ou. D'accord, mais moi j'ai envie d'être pour quelque chose au bout d'un moment.
Alors, il y avait une... justement,
oui, je peux. Allez-y, on va commencer. Allez, Rodolphe, vous commencez après Alexandre.
Bah, justement, moi je suis plutôt attaché à la notion de petit producteur. Oh. C'est Michel Fer, donc une personnalité plutôt de gauche, qui avait écrit un livre pour analyser, selon lui, la nouvelle doctrine du Rassemblement National qui, pour ne pas tomber dans l'écueil ouvrier, propriétaire, en tout cas prolétaire, propriétaire, avait théorisé un peu une voie tierce, justement, qui est l'opposition entre d'un côté les producteurs et de l'autre côté les parasites. C'est des notions qu'on a élaborées au 19e siècle à travers différents courants, et c'était vraiment une volonté d'axer sur la classe travailleuse des actifs, justement sur cette classe moyenne généralisée, et on appelle ça en réalité le producérisme. Je trouve que c'est plutôt une vision intelligente justement de la considération d'une société parce qu'elle nous sort de l'écueil internationaliste collectiviste qu'on peut retrouver à gauche et elle nous sort de l'écueil libéral individu roi, etc. etc. Et ça, je trouvais que c'était plutôt une notion assez intéressante. Je pense pas en réalité que les notions, ou en tout cas que les nations européennes soient faites forcément pour les modèles de collectivisation. Là, peut-être faut-il, c'est une question à débattre, mais peut-être là faut-il rendre en tout cas un peu hommage au libéralisme. Je pense que le développement d'une certaine vision de l'individu, c'est quand même un des legs dont on peut critiquer, bien évidemment, mais aussi se prévaloir en Occident par rapport au reste du monde. Ça ne veut pas dire que les autres civilisations n'aient jamais pensé l'individu, ça c'est une erreur. Mais en réalité, c'est vrai que par nos différentes expériences historiques, que ce soit dans le monde occidental pris au sens large, et pourtant on sait combien je peux être critique de cette notion d'Occident, on se rend bien compte quand même en réalité que les peuples européens, je prends la notion d'européen là, par rapport à l'historicité, on a quand même défendu une certaine vision j'ai envie de dire, de l'homme dans une société, aussi de la femme. Et ça, je pense qu'il faut le défendre, le critiquer quand il... Comment dire il...
Dans ses excès.
Voilà, exactement, dans ses excès. Mais en revanche, je pense qu'on a quand même une certaine faculté, une certaine sensibilité vis-à-vis de l'individu qu'il faut défendre. Et à mon avis, moi, l'opposition fondamentale qui oppose société libérale à société libérale, c'est la fonction de discrimination. Il y a Thibaut Mercier qui avait sorti un très bon livre à l'Institut Iliade sur justement la fonction de discrimination qui est la fonction première d'une société. C'est qui fait partie de ma société, qui n'en fait pas partie, qui est l'ami, qui est l'ennemi, etc., etc. Et je pense que c'est aussi sur cette chose, ou en tout cas sur cette notion qu'il faut véritablement travailler dans les années à venir pour avoir un modèle cohérent politique.
Alexandre.
Oui, juste pour prolonger le débat et pour évoquer la question des petits producteurs, mais aussi de la propriété privée, l'importance de la propriété privée des moyens de production. Je pense qu'il est intéressant de relire là-dessus les œuvres de Proudhon et aussi l'expérience qui malheureusement a tourné court à cause de la Première Guerre mondiale du cercle Proudhon, où il y avait justement cette alliance entre l'Action française qui avait une vision qui n'était pas purement issu de l'ancien régime, parce que le maurrassisme était beaucoup plus moderne que ça, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait quand même cet intérêt sur tout ce qui était guildes et corporations, qui retrouvaient de l'intérêt dans le mutualisme des disciples de Proudhon.
Dans l'autogestion.
Et dans l'autogestion et dans l'importance justement pour l'ouvrier d'être propriétaire de son moyen de production. Et là, aujourd'hui d'ailleurs, il y a des modèles d'entreprise, que ce soit les montres LIP ou les verres Duralex, etc., qui appartenaient normalement à leurs ouvriers. Et aussi l'importance effectivement de la décentralisation et des libertés, non pas de la liberté au niveau local.
Ah, c'est là où j'y... Voilà. Moi, je suis sur une ligne exactement. Mais ça, ça serait un autre débat.
Oui, Gabriel, vous vouliez dire quelque chose.
Moi, je voulais juste réagir sur ce que tu as dit, Rodolphe, au sujet de l'importance de l'individu en Europe. Moi, je la fais remonter jusqu'aux Indo-Européens. Ce sont quand même les Indo-Européens, à partir de moins 3000, donc à partir d'il y a 5000 ans, qui ont introduit en Europe les tombes individuelles avec des objets à l'intérieur qui appartiennent à la personne qui est enterrée et donc qui montre une certaine propriété privée, bon, qui a dû exister d'une manière ou d'une autre au néolithique pré-indo-européen en Europe. Mais le néolithique en Europe, vous voyez uniquement des tombes qui sont des fosses collectives où les gens sont placés de manière indifférenciée et on arrive... avec cette nouvelle population de pasteurs guerriers semi-nomades qui viennent des steppes d'Europe orientale, donc les Indo-Européens, avec des individus réels, visibles dans l'archéologie. Et on peut associer ça par rapport à tout ce qu'on a pu reconstruire comme culture commune à cette valorisation du héros, du mérite personnel des guerriers, du guerrier individuel en tant que personne et de ses prouesses qui recherchent la gloire. Ça, il y a une unanimité dessus sur tous les Indo-Européanistes à ce sujet-là. Et donc, il y a quand même eu une personnalisation beaucoup plus importante, on va dire, des exploits.
Et une hiérarchie jazz. Oui. Une hiérarchie aussi qui s'installait et qui était constitutive.
C'est ça.
Et on pourrait
qui
même revenir sur la, sur la trifonctionnalité européenne, qui est vraiment notre imaginaire collectif qu'il faut défendre absolument, même si on ne peut pas le reprendre sur les mêmes modèles que le Moyen-Âge, ça c'est certain.
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet qui est très intéressant, sur lequel il faudrait faire une émission complète, hein, notamment sur l'indo-européanité, etc. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur les odieuses attaques du sieur de Grotte concernant la nouvelle droite et son incapacité à proposer des choses et à faire autre chose que critiquer. Pour lui rappeler tout de même que il y a un corpus assez important, notamment ce produit par Alain Benoît, qui ne fait pas que de l'analyse, où il y a aussi des voies de proposition. Et je préciserai surtout que je l'inviterai à lire les travaux de Guillaume Travers, qui a publié plusieurs livres justement sur le libéralisme, le capitalisme et justement comment penser des systèmes alternatifs, notamment au travers des communs, de la réappropriation des communs, et qu'il ne faut pas confondre avec justement le collectivisme. Et donc ça lui fera des bonnes lectures pour cet été quand il sera à Ibiza sur la plage. Voilà. Bon, messieurs, il nous reste quelques minutes, donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question du libéralisme? Sinon je vais passer au message d'un auditeur. Il nous reste quoi, 6 minutes? Ah, Rodolphe, encore un mot.
Peut-être,
après
pour finir, là, c'est vrai qu'on a utilisé des grands mots, parfois un peu vagues, le libéralisme, l'antilibéral.
On a essayé de définir quand même, on a fait un gros effort.
Mais je pense qu'il y a des moments de vérité qui sont des moments où on se retrouve, parfois venant de chapelles différentes, dans une certaine communion. Je parle par exemple de la période Covid. Moment de conditionnement humain, moment de surveillance généralisée. Et là, on a pu avoir des personnalités qui avaient parfois des fois différentes, entrer quelque part en résistance. Alors, en résistance, avec les guillemets qu'il faut mettre, il y a résistance et résistance. Mais il n'empêche, dire non à une société de conditionnement. Et là, on a vu, par exemple, des voix libérales s'élever, justement. On a vu aussi des gens qui venaient par d'autres écoles aussi s'opposer contre cette volonté, cette mise en place d'une société de surveillance. Et là, on va l'avoir avec prochainement le débat sur l'euro numérique, sur la liberté d'expression qui est toujours en train de régresser. Et ben, on se retrouve à avoir une communauté, quelque part, de gens qui viennent pas des mêmes endroits, des mêmes écoles de pensée, se retrouver dans une certaine résistance. Et là, c'est un peu des moments de vérité, je trouve, où on arrive à voir un peu ceux qui sont de notre bord et ceux qui le sont pas. Et parfois, on pensait que certains le seraient, et ben, ils le sont pas forcément. Donc là, c'est souvent face à l'événement, face au changement, notamment avec le développement des IA et des sociétés de surveillance là-dessus, qu'on va voir véritablement ceux qui font partie de notre famille et ceux qui n'en font pas partie.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce débat passionnant qu'il faudra sans doute te prolonger. J'en profite donc quand même pour lire un message d'un auditeur qui nous dit « Bonjour, taper sur Mélenchon tout est certes divertissant, mais ne serait-il pas plus urgent de démonter l'imposture du mannequin La Redoute Bardella qui nous promet un changement pour que rien ne bouge ? Ce type est d'une nullité assortie d'un culot dont on ne peut dire... d'un culot dont on ne peut dire ce qu'il emporte dans la démesure, au point de se demander si la méluche ne serait pas la solution pour faire exploser le Moloch. » Alors, déjà, je laisse la responsabilité de ses propos à cet auditeur, mais il a bien le droit d'avoir son opinion, bien entendu. Alors, juste pour une chose, je pense pas qu'on ait tapé sur Mélenchon, je pense qu'on a essayé d'analyser sa stratégie de façon assez objective.
Je pense que c'est tourné un peu vers moi. Pour le coup, j'ai quand même essayé, même d'un point de vue droite, d'avoir un point de vue relativement objectif. J'ai mes avis et je pense que l'objectivité n'existe pas. Je n'ai rien caché, notamment dans mon livre, de ce que j'ai trouvé chez Mélenchon. Ensuite, à cet auditeur, il faut qu'il se questionne. Est-ce qu'il préfère vivre sous une France présidence Mélenchon ou Bardella et qu'il se pose les véritables questions? Parce que là, on est au-delà de la simple querelle. Et pour avoir analysé quelque part Jean-Luc Mélenchon, à travers mon livre, je préfigure un peu la France que pourrait être une France sous, on va dire, présidence Mélenchon, et le lecteur se fera sa propre opinion du devenir de nous, de notre peuple et de notre pays.
Rappelez d'ailleurs le titre de votre ouvrage.
Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire aux éditions de la Nouvelle Librairie.
Voilà, une excellente lecture, en plus dans une version aujourd'hui
augmentée
par rapport à la première édition, donc si vous vous intéressez à cette question.
Moi, je défendrai quand même un petit peu cet auditeur, même si je partage pas l'analyse jusqu'au bout et pas l'éloge de
c'est
Mélenchon.
C'est un copain à vous, je suis sûr qu'il a envoyé ce message.
Il faut être clair et analyser avec autant de lucidité le Rassemblement National qu'on le fait avec Mélenchon. Le Rassemblement National aujourd'hui est un parti libéral conservateur et on n'a rien d'autre à attendre de lui que du libéralisme. Alors, puisque libéral conservateur est une contradiction dans les termes et qu'un libéral conservateur est un libéral, dès qu'il y a un choix un peu tendu à opérer. De ce point de vue-là,
oui,
quelle différence est-il entre...
Je suis d'accord, excusez-moi de vous couper, je suis d'accord avec ça. Sur le programme économique, d'ailleurs, il faudra qu'on voit exactement qu'est-ce qu'il comporte exactement, parce qu'apparemment, il y a quand même des tensions en interne entre les courants. Mais sur le point de vue économique, il n'y a pas grand-chose à espérer. On ne va pas faire une sortie du libéralisme par le RN. Mais la France, la nouvelle France que nous vend le LFI, je suis désolé.
Ah oui, je suis d'accord, évidemment.
C'est pas possible, quoi. Moi, je veux bien
voter Mélenchon.
Je veux bien être très anti-libéral, mais bon, la pire des politiques, la politique du pire est souvent la pire des politiques. Et là, je pense que
c'est
vraiment dans le pire du pire.
Que Mélenchon soit anticapitaliste. Il y a d'excellents articles de Lordon sur le sujet.
Qu'il soit anticapitaliste.
Oui, il y a deux excellents articles de Frédéric Lordon qui est à La France Insoumise, disant que La France Insoumise n'est pas anticapitaliste.
Ah,
c'est
bah
un anticapitalisme de toc.
Merci messieurs, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Donc je vous remercie vivement d'être venus dans le studio, d'avoir affronté les chaleurs tropicales que nous connaissons en ce moment pour discuter. J'espère offrir une émission intéressante aux auditeurs de Radio Courtoisie, auxquels je rappelle que le numéro 220 de la revue Élément est toujours disponible en kiosque avec une couverture sur la remigration et que sort dans quelques jours le hors-série numéro 4, toujours de la revue Élément, consacré aux États-Unis de l'oncle Sam au phénomène Trump, notre meilleur ennemi. Voilà pour la publicité. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois. Il ne me reste plus qu'à, encore une fois, remercier les auditeurs, remercier les invités, remercier la technique sans qui nous ne serions rien. À vous dire bon courage pour la fin de la canicule, une très bonne semaine, un très bon mois, à dans un mois pour un nouveau Libre Journal de la Nouvelle Droite. Merci à tous.
Entendre le Libre Journal de la Nouvelle Droite dirigé par Xavier Aymon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 23 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.